Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Tudosef 91.1 FM. Aujourd'hui, je suis avec Martine, une de nos bénévoles. Bonjour Martine. Martine, en fait, on a été beaucoup ensemble au moment du Festival de Cannes qui s'est déroulé au mois de mai. On a eu pas mal de séances qu'on a faites ensemble, notamment les séances acides, on était souvent ensemble, et dont le film dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Katie Blues de Justine Harbonnier, qui du coup est sorti en juillet qu'on a pu voir à Cannes lors de la sélection acide. Il y avait la réalisatrice qui était là et toute l'équipe de production. C'est une coproduction franco-canadienne, donc il y avait beaucoup de monde présent là dans la production du film.
This is 96.9 FM KMRD LP Madrid, New Mexico. Thank you so much for tuning in on this beautiful day. I'm a dirty agent.
Where?
New York.
Really?
Mm-hmm. I know, because I'm on my way to San Francisco and I never made it any further.
Faction.
Hi, we are here at Chime Time Live in Pearl River, New York. Here, let's go to Paul McCartney.
You know, when I talk about my student loans, sometimes people ask me what I went to school for and I tell them and they laugh and they're like, well, of course you can't pay it off. It sucks being 29 years old.
I saw you were hiring on Craigslist.
I'm excited. This is something that I really want to do, so I have no problem in my spare time knowing a song when I walk in here. I'm gonna play you some music today. Not like I normally do. I'm gonna play you some of my own music. You ready?
Ready.
Okay.
Half with the bottle, buddy. Didn't quit me. Half with the bottle, buddy. Didn't quit me.
Eh bien parce que en fait je vais m'arrêter là, parce que d'habitude c'est moi qui questionne un peu les bénévoles sur ce qu'ils ont aimé du film et qui les relance un peu. Mais cette fois-ci, je vous le dis tout de suite, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et on va dire pourquoi, je voudrais dire aussi voilà, de quoi retourne le film, de pourquoi ça m'a beaucoup plu. Mais on va du coup inverser les rôles, je vais laisser la parole à Martine qui va un peu me poser des questions et me rediriger sur diverses choses du film. Et c'est moi qui vais argumenter un peu le pourquoi ce film, je le trouve juste formidable. Voilà.
Bah oui, parce que devant l'enthousiasme de Colin pour ce film que j'ai aimé hein, aussi, mais peut-être avec beaucoup moins d'enthousiasme que toi, je me suis dit... Bah, on va inverser, c'est moi l'intervieweuse.
Eh bien super, faisons comme ça, c'est nouveau, allons-y.
Sachant que j'ai vu le film aussi, donc, et la réalisatrice qui à cette époque en mai était enceinte et maintenant elle a son petit garçon.
Voilà, ouais. Alors je ne me suis pas renseigné si c'est un petit garçon ou une petite fille, donc disons pas de bêtises, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a son petit bébé, voilà. Et là, j'ai pas précisé que la réalisatrice viendra présenter le film le 12 octobre,
voilà.
Donc venez... D'accord. Voir le film, c'est encore mieux quand on a le point de vue de ceux qui l'ont fait.
Et donc, en fait, cet enthousiasme pour Katie Blues, ça s'écrit C-A-I-T-I, hein, pas Katie Blues. Je me suis dit que c'était un enthousiasme de jeunes. Voilà. Et il semble que les 20, trentenaires ont été complètement enthousiasmés par ce film. Et j'aimerais bien savoir pourquoi.
Alors, bah, moi, je pense parce que le film, en fait, il décrit avec pas mal de justesse ce que c'est que... alors, déjà, être jeune en 2023, mais pas que. Être jeune et d'être dans un état d'esprit, comment dire, de créatif, de recherche, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et même en général, quelles sont les angoisses présentes et les peurs quand on a une vingtaine d'années en 2023. Je trouve que c'est ce dont parle le film. Alors, histoire que je recontextualise un petit peu de quoi parle le film, ça parle de Katie, qui est une américaine qui s'est installée à Madrid, alors pas Madrid en Espagne, Madrid au Nouveau-Mexique, qui est une ville aux États-Unis, qui est une ville assez perdue en pleine montagne. Voilà, c'est une ville où c'est reclus, c'est quelqu'un qui aime chanter énormément, mais qui était un peu en dépression, qui a un peu laissé tomber. Et quand on la prend dans le film, elle a envie de se reprendre en main, de faire les rêves qu'elle s'était fixés. Et elle va en parler à la fois face caméra dans le documentaire, mais aussi à travers, c'est rigolo, à travers un podcast qu'elle fait, où elle raconte, c'est une sorte un peu de journal, quoi, qu'elle raconte en audio. Et c'est à travers, du coup, ce portrait-là de cette fille qui s'appelle Katie, où je trouve, en règle générale, Justine Herbonnier parle de qu'est-ce que c'est qu'être perdu quand on a une vingtaine d'années, quoi.
Voilà. Et en fait, elle a commencé, je crois, en 2016 à faire ce film, mais même bien avant, parce qu'elle était dans son documentaire précédent en 2011, je crois. Et donc oui, en fait, on peut dire qu'il y a des images d'archives dans ce film, des images d'archives non seulement intimes, qui sont issues de... qu'elle a demandé aux parents de Katie, donc en VHS, Super 8, enfin tout ce qui existait encore à l'époque. Et il y a aussi des images d'archives de l'histoire des États-Unis, quelques images. Et c'est vrai qu'à cette époque, l'époque Bush, la guerre, le 11 septembre, l'arrivée de Trump après, ça donne un contexte politique assez noir. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a quelque chose qui attaque la jeunesse en ce moment, au niveau politique aussi. Mais c'est dit très subtilement dans ce film, parce qu'en fait, elle affiche toujours un sourire.
Oui.
Et il y a un contraste comme ça entre une perte de l'espoir et quelque chose qui va quand même vers l'espoir grâce à sa musique.
C'est finalement. Ça. Bah, je pense que c'est ça. Ça dit quand même qu'on vit dans un monde compliqué actuellement, quand même. Et effectivement, ça se passe... elle a eu l'idée du film, en fait, Justine Herbonnier, où elle a commencé, je crois, le processus du film, au moment de l'élection de Trump. Donc c'était ça aussi le point de départ de son envie créative à Justine Herbonnier. Donc c'est ça qui lui a donné envie. À mon avis, il y avait aussi l'idée, qu'est-ce que c'est qu'être jeune dans l'Amérique de Trump, et qu'est-ce que ça va être qu'être jeune dans l'Amérique de Trump maintenant. Et bon, il se trouve que le mandat de Trump est terminé et qu'on a vu qu'il y a eu des conséquences assez terribles sur la jeune génération, des situations de plus en plus précaires qui se font voir de plus en plus jeunes, en fait. Et je pense que le film parle de ça de manière assez frontale, hein, parce que Katie je pense est une jeune parmi tant d'autres qu'on peut voir, et donc des gens qui ont beaucoup perdu espoir à un moment donné, parce que je pense il y a eu une idée de l'incertitude du monde qu'on nous proposait, en fait. Donc Trump arrive, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai dit Trump, mais ça peut être dans plein d'autres pays dans le monde, hein, où ce qu'on a vu avec Trump, on l'a vu ailleurs, au Brésil par exemple, enfin voilà, en Italie là récemment, donc c'est des choses qui arrivent, c'est quelque chose qui se globalise de plus en plus, et je pense qu'elle décrit ça. Elle décrit comment le monde est en train de devenir, c'est-à-dire quelque chose d'assez sombre, de plus en plus individualiste, de plus en plus répressif, de plus en plus centré sur soi-même. On retrouve ça beaucoup en ce moment, des pays qui se recentrent énormément sur eux-mêmes, et donc une population qui se recentre sur eux-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que toi, quand t'es jeune, où t'es censé un peu être dans... l'inverse de ça, en fait. Quand t'es jeune, on veut croquer la vie, on pense à l'avenir énormément, à nos projets de vie, à la personne qu'on aimerait devenir. Je pense que tout cet état d'esprit est très chamboulé quand on est dans un monde où on ne perçoit pas cet avenir-là, cet espoir-là, où en fait les enjeux, quand on a 20 ans, ne sont plus les mêmes que quand nos parents en avaient 20. Mmh. Et je crois qu'il y a du coup quelque chose d'assez
universel
et puis surtout d'assez triste qu'elle décrit. Mmh. Et je pense qu'elle dit qu'à cette fois, jeunesse est perdue dans ce monde-là parce qu'il y a beaucoup de choses antinomiques qui se créent, de paradoxes qui se créent, qui fait que je pense que se construire, parce que quand t'as la vingtaine, pour moi, c'est une décennie où t'es plus enfant, t'es plus ado, mais t'es pas encore tout à fait adulte et tu te construis, et c'est sur ces décennies-là que tu te construis au fur et à mesure. Et je pense que quand il y a des événements qui font que ça peut pas se passer comme ça se passait dans le passé, les jeunes sont perdus là-dessus. Mmh. Et heureusement, le film parle quand même du fait que ça reste, on a encore dans nos jeunes qui arrivent et dans une nouvelle génération qui arrive, des personnes qui sont, c'est pas parce qu'elles sont perdues qu'elles sont pas pleines de ressources et pleines d'envie et pleines de création, et qu'à un moment donné il faut aussi se battre pour que ces envies, cette jeunesse-là ressortent malgré l'état actuel dans divers pays mondiaux. Quoi.
Voilà. Oui, donc je comprends mieux en fait ce qui est... Oui, c'est ça, c'est ce caractère un peu universel qui fait que même la réalisatrice, elle dit que c'est un film intime et politique. Et c'est vrai que la façon dont cette jeune fille, elle traverse un peu tout le... la fin du rêve américain en fait, et comment elle se construit, parce qu'il y a beaucoup de scènes de vie quotidienne.
Énormément.
C'est une jeune fille qui est quand même assez courageuse, elle est DJ dans une radio où là elle se livre, elle parle d'elle et elle chante, elle écrit les paroles, c'est assez beau quand même tout ce qu'elle fait. Et c'est un contraste entre perte d'espoir et une énergie positive.
Exactement.
Une énergie positive au quotidien.
Ouais. Oui, parce que je pense qu'elle est dans... C'est pour ça que le film a beaucoup plu, que je pense qu'il a pas mal plu à des gens d'à peu près de mon âge.
Ouais, c'est ça.
Et bizarrement, un peu moins sur des personnes un peu plus âgées, où la trentaine, quarantaine a été dépassée. Parce que je pense que ça décrit quelque chose que nous, jeunes, on vit, qu'on voit à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un partage de regards qui se fait assez vite. Et qui forcément c'était plus difficile de se remettre à la place, de se mettre à la place de cette jeune là qui ne vit pas du tout la même époque que l'époque que les personnes un peu plus âgées ont vécu. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être un manque peut-être de compréhension de l'œuvre d'attachement en tout cas, d'attachement d'émotion. Je pense que c'est pour ça.
Voilà. Donc c'est un appel à la nouvelle génération pour aller voir ce film.
Je pense, c'est pas forcément un appel. Je pense que ça décrit ce que c'est que la génération, la génération, post-Trump, mais en général la génération 2020, quoi. Des années 2010-2020. Je pense que c'est un film qui parle de ça. Il y en a pas beaucoup qui sont assez justes sur cette nouvelle jeunesse-là. Je trouve que beaucoup de films qui parlent de jeunesse, on parle de façon universelle, et des fois c'est très bien. On peut dire plein de choses de façon universelle sur la jeunesse, mais il y a des choses qui sont assez spécifiques à une époque, et je crois que Katie Blue le montre parfaitement. Et puis en plus de ça, on suit c'est ce personnage-là qui est attachant tout de suite, en fait. C'est aussi à la force d'un documentaire, c'est de...
Alors oui, c'est un documentaire.
Oui, c'est un documentaire, voilà. I put the bottle down last week. Turns out it don't make me all that sweet. Can't hide from nobody else. If I don't hide from myself, I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. No, no, not
na 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 na. See here, I quit the bottle, but it didn't quit me. I'm just trying to get a goddamn wink of sleep, but I feel too many things. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. No, no. Na 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 na. I can't even touch myself, but it's alright, 'cause I'm already going to hell. You won't see me anymore. Fine by me, and I'll have one more. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. No, no. Now who the hell passed me this martini? By the end of the night I'll be seeing two of me. And who the fuck gave me all that LSD? Look at me now, man, I'm really going down. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. I quit the bottle, but it didn't quit me. No, no. Na 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 na.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'un portrait intime aussi, parce que c'est vrai qu'elle a, elle est beaucoup dans les plans. On a l'impression que la réalisatrice Justine Arbonnier, elle la suit pas à pas. En plus, il y a toutes ces images d'archives qui nous la montrent petite, où elle a déjà ce rêve d'être chanteuse, où elle chante déjà. Et ce portrait intime, en fait, avec une forme documentaire, c'est drôle parce qu'elle elle en fait autre chose qu'un portrait intime. Et je ne sais pas à quoi ça tient. Bah, c'est pas seulement avec les images d'archives sur l'Amérique. C'est pas seulement parce qu'elle elle est dans un milieu assez marginal, dans une Amérique pauvre. C'est autre chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans son documentaire qui dépasse le portrait intime.
Oui, je vois ce que tu veux
alors
dire.
Alors que c'est le sujet.
Oui. Mmh. Alors, bah déjà, on peut parler du fait qu'elles se connaissent déjà bien, en fait, avant que le film commence. Celui de la réalisatrice et Katie, elles sont amies. L'envie de faire un film sur elles est venue au fur et à mesure. Et je pense que, je sais pas, il y a effectivement quelque chose de très intime qui se fait, parce que on sent que on n'aurait pas les images qu'on a si c'était quelqu'un qu'elle connaissait depuis 2 semaines, quoi, ou depuis 1 mois, comme ça se fait des fois sur des portraits, des documentaires, où il y a une rencontre qui se fait avant, mais la rencontre se fait déjà dans le but de faire un film, quoi. Donc, et là, c'était pas le cas. Là, quand elle fait le film, elles se connaissent déjà très bien. Il y a une complicité, une intimité entre elles. Et donc ça se ressent dans pas mal de moments. Je pense que Katie a des réactions qu'elle n'aurait pas eues si c'était pas une très bonne amie qui était en face d'elle. Et ça se retrouve. Ça se retrouve dans certaines scènes, alors je ne veux pas dire la fin du film, mais il y a tout un truc où Katie veut décrocher un rendez-vous, un entretien, pour chanter quelque part. Et ces moments-là, on les vit comme on a l'impression de faire partie d'une bande d'amis, quoi. Mais après, je ne réponds pas à ta question où tu me dis, justement, mais je vais y venir, mais je voulais d'abord contextualiser toute la partie intime du film, sur pourquoi déjà on ressent ce côté-là intime. Mais tu as raison, effectivement, dans le film, l'universel côtoie l'intime. ce qui va pas forcément ensemble, mais je pense justement par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, que malgré tout, en fait, ce que vous montre Katie, que le fait que ce soit montré de façon intime, donc de façon si proche, et ben tout de suite, ça va résonner quelque chose que chacun on pu voir ou on pu vivre. Parce que quand tu mets tout de suite une certaine proximité très proche entre la réalisatrice et le sujet, et ben alors nous, on va voir effectivement deux personnes qui connaissent très bien, mais forcément, si on montre des moments d'intimité, qu'on montre des moments de mise à nu comme ça, forcément, ça va résonner avec des vécus, des propos, des choses que nous, on a vécu nous, des choses qu'on a entendues de la part d'amis proches, qu'on va se remémorer, qu'on va revoir, et qui tout de suite va faire le parallèle avec plein de choses. Et vu que le film a des sujets très universels, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, être jeune en 2023 et être artiste en 2023 aussi, j'ai envie de dire, tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation-là, vont retrouver tous ces moments très justes et très intimes qu'ils ont pu voir dans leur vie et qui est montré dans le film justement par la proximité de Justine Arbonnier et de Katie. Katie Lord, hein, j'ai pas lu son nom de famille, mais ça s'appelle Katie Lord. Et donc forcément, il y a quelque chose... c'est comme ça qu'à mon sens, l'universalité va joindre l'intime parce qu'on parle à la fois de choses que tout le monde a vécues, mais on en parle avec tellement de proximité, d'intimité, qu'on va forcément se projeter à la fois dans la vie de Katie, mais à la fois en rétrospection de notre propre vécu. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire.
Oui,
mais
voilà. Oui, il y a toute cette partie sur la vie quotidienne, l'intimité et puis l'espoir auquel le spectateur peut s'identifier tout à fait justement en 2023. Et le contexte politique... le contexte de ce pays aussi, les milieux des marginaux, parce qu'elle en fait partie aussi. Le contexte de... je me souviens qu'elle a des dettes parce qu'elle a dû s'endetter pour être étudiante. Et en fait, comme les taux d'intérêt montent de façon exorbitante, elle n'arrive même pas à rembourser une dette. Donc, c'est vraiment l'effondrement de quelque chose qui résonne aussi avec ce que... les jeunes peuvent vivre en ce moment.
Mais on est sur une reconstruction après. On n'est pas sur une déconstruction. Au contraire, quand on l'apprend, elle est déjà en train de sortir du gouffre. Elle n'est pas dans le même état d'esprit qu'elle était quelques mois avant. État d'esprit qu'on ne verra pas, mais qu'elle racontera. Mais déjà, c'est pour ça qu'on a envie de la suivre, parce qu'elle est très souriante et elle a repris de la vie, quoi. Voilà. Mais elle le dit dans le film, hein, que... il n'y a pas si longtemps que ça, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit, quoi. Et que déjà, au moment où on l'apprend, elle a fait un travail sur elle-même assez important. Donc ça, c'est important à dire. C'est pour ça que le film n'a jamais... moi, je trouve, en tout cas, parce que j'ai eu l'avis d'une de nos bénévoles qui l'a pas forcément ressenti positivement, mais je ne trouve pas que le film est plombant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez de plein d'espoir, je trouve. Au contraire, je trouve qu'on a envie de créer quand on sort du film, quoi. On a envie d'y croire, on a envie de recroire aux objectifs qu'on a pu fixer et d'y repenser et de réorganiser tout ça. Enfin, voilà. Le film, de toute façon, Katie, elle doit avoir à peu près mon âge, je pense, fin de vingtaine, début de trentaine, elle doit avoir à peu près mon âge là-dessus. Donc, forcément, moi, je me suis retrouvé sur certains points, quoi, sur certains doutes. Que je pense que plein de personnes de notre génération qui ont plus été dans quelque chose d'assez artistique ont pu vivre et voilà et puis les images d'archives qu'on montre aussi, enfin on voit bien que ça parle d'une époque que nous on a vécu aussi au même âge. Voilà, il y a, je pense que c'est aussi pour ça que le film plaît aussi à cette génération là parce qu'il y a l'impression de voir exactement ce qu'on a vécu même à travers les images d'archives.
Et je sais pas si tu te souviens là. La réalisatrice, elle nous avait expliqué que son producteur lui avait demandé de revoir toutes les archives, donc il y en avait un sacré paquet, hein, pour qu'elle puisse retrouver des scènes plus, je sais pas comment dire, plus spontanées. Et donc ça, c'était après un premier montage. Donc elle a tout re-regardé les rushs. Et je pense que ça peut contribuer aussi au fait que c'est un film et pas forcément un portrait.
Oui, je vois ce que tu veux dire, ok.
Tu vois ?
Mm-hmm. Ouais, oui, alors effectivement, elle a retourné des plans qui avaient déjà été faits. Donc voilà, de toute façon, dans le documentaire, il y a toujours une part de fabriqué, hein, toujours. Ces documentaires cherchent à capter le réel, mais cherchent aussi à le mettre en scène, le réel. Donc pour ça, il faut avoir une part qui ne soit pas vraiment documentaire, quoi. Donc quand elle refait les scènes, on n'est plus vraiment dans le réel, quoi, parce qu'on est dans une réinterprétation du réel. Et donc oui, ça donne forcément peut-être un autre ton peut-être à la scène de base.
Elle est assez douée pour le jeu d'acteur aussi. Enfin, je veux dire, elle joue dans son propre rôle.
C'est un personnage qui a de la... c'est une chanteuse, donc c'est quelqu'un qui a une présence scénique.
Ouais.
Et donc... souvent, ceux qui ont une présence scénique ont une présence à la caméra qui est assez forte, qui se fait tout de suite, et c'est le cas de Katie qui je trouve bouffe l'écran, enfin en tout cas capte l'écran très vite, quoi. Et aussi, que le fait que qu'elle soit filmée dans des scènes les plus intimes, c'est-à-dire que moi j'ai souvenir d'une scène où elle la suit sous la douche, et il y a quelque chose de, moi c'est ce moment-là que l'intimité je l'ai ressenti tout de suite, quoi. Je fais c'est dans tu vois pas souvent ça dans des portraits, des documentaires où même il y a de l'intimité, il y a pas de l'intimité à ce point où vraiment on la suit dans les cercles les plus intimes, quoi. Et je trouve que il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, et quand elle refait des moments qui ont été faits, Je pense qu'ils sont invisibles, hein, parce qu'elle n'a pas forcément dit lesquels elle avait refait.
On sait pas.
Je pense que c'est bien d'ailleurs de ne pas le savoir.
Oui.
Parce qu'en tout cas, ça donne peut-être quelque chose de spontané, peut-être encore plus fort que ce qu'elle avait fait au départ. Mmh. Et je ne sais pas, ça se trouve, les scènes que j'ai décrites, ça se trouve, c'était la seconde fois, je ne sais pas. Mais c'était, ça m'avait assez étonné quand elle l'avait dit.
Mmh.
Mais je pense que je pense que tu vois ça pourrait pas marcher s'il y avait pas de complicité entre les deux.
Oui.
Tu vois, tu peux pas refaire un truc aussi vrai, aussi spontané s'il y a pas une vraie amitié, une vraie force.
Mais elle expliquait aussi elle a expliqué qu'elle faisait ça pour aussi casser cette trop proche relation.
Oui, c'est vrai, tout à fait, ça me revient.
À l'inverse, quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est parce que le producteur disait, mais vous êtes trop proche, là, ça a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle a rejoué ses scènes pour prendre une distance, finalement. Ouais.
Mais c'est vrai.
Et c'est vrai que ça, c'est imperceptible, mais... pour les gens qui iront voir le film, il faut le savoir.
C'est ça. Mais je pense
parce que ça donne une autre dimension à ce documentaire.
Mais je pense que c'est un jeu d'équilibriste, beaucoup de ça, en fait. Mmh. De le côté à la fois intime et universel. Presque la force du film est là-dessus, je trouve.
Ouais.
De trouver la bonne justesse, justement. Parce que effectivement, le risque d'avoir deux personnes qui se connaissent très bien, qui filment très bien, le risque, c'est d'avoir la sensation d'être... d'assister à une fête auquel on n'a pas été invité.
Voilà, c'est d'évacuer le spectateur.
Voilà, c'est
alors
ça.
Alors que là, c'est pas du tout le cas, parce que... Ouais. Ouais, et puis, j'avais lu que ce film, il est sorti en même temps que Barbie.
Ah oui, j'avais pas fait attention. C'est rigolo. Ah oui, ça c'est rigolo.
Ouais,
tiens.
Parce que là, c'est vraiment l'anti-Barbie. Hein. Elle est quand même bien en chair.
Oui, elle est un peu forte.
Elle n'a pas les codes, elle n'a pas le physique, elle n'a pas les fringues, elle n'a rien, elle n'a pas la petite voiture.
Non.
Elle n'a rien de Barbie. Et même, il y a une scène dans... Tu te souviens de la scène de Barbie dans le film quand elle est petite?
Ah oui, oui, ça me revient. Oui, effectivement.
Elle insulte Barbie.
Oui, alors moi quand on a vu le film, c'était au mois de mai, donc Barbie n'était pas encore sortie. Puis il y avait très peu encore le processus médiatique du film avait pas encore pris son ampleur, disons. Mais maintenant que j'ai vu le film Barbie, tiens, ça m'intéresserait de le revoir là-dessus, parce que c'est un peu rigolo, c'est vrai, que les deux films soient sortis en même temps, parce que... On parle de qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui, et les deux films parlent de ça, en fait, quelque part aussi, mais effectivement de façon très très différente. Enfin voilà, on va pas parler du film Barbie parce que c'est tout autre chose,
mais on est sur
un autre point, mais tout aussi intéressant. Après voilà, Katie au-delà d'être, d'être une femme dans le film, je trouve que c'est surtout une artiste, telle qu'elle est montrée. Je ne dis pas que le fait que ce soit une femme n'a pas son importance dans le film, parce que je pense que ça l'est aussi sur certains moments, mais je pense qu'elle veut avant tout filmer une jeune artiste à en devenir, quoi, et qui en tout cas espère en devenir, et le film parle de ça, voilà. Et je trouve que ça fait partie de ce pourquoi je trouve le film très bon, quoi, voilà.
Et eh ben voilà.
Est-ce que tu as d'autres questions à me poser, Martine?
Les petites. Katie Blues. peut-être. Ah oui, il y a aussi la forme du film avec les cartons. Tu peux nous expliquer? En fait, je me souviens plus trop des cartons, à part la traduction de ces textes.
Ouais, je t'avoue que j'en souviens plus exactement non plus, donc on va essayer.
Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, entre les images d'archives qui font un peu comme une espèce de colonne vertébrale, parce qu'on voit déjà son caractère petite, et on a un fil continu jusqu'à maintenant à travers ces images, et puis aussi les images de l'Amérique.
Oui.
Et ses chansons et ses prestations auprès de la radio comme bénévole, où elle se livre aussi beaucoup, et les cartons et tout ça, et les scènes rejouées, tout ça sont des procédés, en fait.
Bien sûr, des mises en scène.
Mises en scène et des procédés qui font de ce documentaire quelque chose qui est... Bah oui, qu'on s'ennuie pas quand même.
Ouais, on rentre dedans, on rentre pas dedans.
Quelque chose d'attachant,
ouais, c'est ça.
Sans que ce soit trop intime, ni trop...
Voyeuriste.
Oui, voilà.
Une
certaine pudeur.
Ouais, mais effectivement, parce que le film aurait pu, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais le film aurait pu tomber dans tous les pires travers. Hein. Justement, c'est un jeu d'équilibriste vraiment, vraiment fascinant. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être misérabiliste, ça aurait pu être voyeuriste, ça aurait pu être, être un peu. Un peu sectaire dans sa façon de faire, ça aurait pu, parce que effectivement, quand on voit le film, il y a tous ces aimants-là qui pourraient, tu sens qu'ils pourraient planer au-dessus du film, mais il y a une vraie intelligence dans la façon de faire, et voilà, qui, je pense, l'empêche de tomber dans ces travers-là. Et voilà, c'est bon, après, voilà, on se répète de plus en plus, mais c'est fait pour toutes ces raisons-là que je trouve le film très fort, et même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous interpelle, quand même. Voilà, parce qu'il y a effectivement une façon de montrer la jeunesse qui est pas, je trouve, en tout cas, pas commune. C'est loin à la fois d'une certaine victimisation de la jeunesse d'aujourd'hui, ni une certaine culpabilisation de la jeunesse d'aujourd'hui, qui sont un peu trop les deux penchants qu'on trouve actuellement. Et je trouve qu'il y a, c'est même pas une sorte de nuance, hein, c'est une sorte de justesse, qui est présent avec ce film-là. Il y a pas de clichés, il y a pas de jugement, il y a pas de misérabilisme, il y a un regard. Juste et vrai sur ce que c'est que déjà de vivre en Amérique, hein, parce que c'est aussi un très beau film sur l'Amérique en règle générale, en filmant une ville américaine vraiment pas vraiment filmée, quoi, un type de paysage américain pas vraiment filmé, un paysage perdu quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau aussi là-dessus, et juste de parler qu'est-ce que c'est que se perdre et de se retrouver quand on a la vingtaine en 2023.
Voilà. C'est bien dit. Bon, il suffit pas d'être jeune, hein, pour aller voir ce film.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je rappelle, voilà, que
je pense que ça plaît à tout le monde.
J'espère. J'aimerais beaucoup qu'on vous voit tous le 12 octobre à 20h30 pour découvrir Katie Blue en compagnie de Justine Arbonnier, qui sera là pour confirmer ou non tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit ici, et apporter des explications, des détails. Enfin voilà, je sais toujours bien quand il y a un film accompagné par un réalisateur ou une réalisatrice, mais pour celui-là, je trouve que c'est particulièrement important. Voilà, Écoute, Martine, est-ce que tu as, est-ce que c'est tout ce que tu as à dire sur Katie Blue?
C'est tout ce que j'ai à dire.
Et bah, super. C'était en tout cas.
Merci à toi.
Merci à toi surtout d'avoir joué le jeu, d'inverser un peu les rôles. Et je trouve qu'au final, on a eu une discussion du coup très complète parce que sur un seul film, là, on est à 30 minutes d'émission.
Ah.
Mais en tout cas, merci beaucoup.
Alors, c'est le.
C'est le 12 octobre.
Le 12 octobre.
Le 12 octobre à 20h30.
À 20h30.
Voilà.
Au Lobis.
Donc on vous retrouve tous au Lobis pour voir Katie Blue tous ensemble. On va passer un super moment, vous allez voir. Et sinon, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons films et une très bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.